Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes ainsi dans cette rencontre du mois d'août pour voir entre nous le chapitre 6 de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. C'est une grande joie pour la communauté de pouvoir vivre ce petit temps avec vous. Et nous le savons, le pape à travers cette encyclique veut vraiment nous montrer combien notre vie d'être humain peut, au nom même de notre humanité, indépendamment même déjà de notre regard de foi, il va y arriver, bien entendu, montrer combien elle a sens, elle donne sens à notre dignité humaine et à notre vocation d'essayer de faire en sorte que sur cette terre, nous soyons tous frères. Et je crois que c'est important de voir que d'un point de vue vraiment profondément humain et philosophique, on peut dire cela sans gêne aucune, que tout être humain, je dirais, ouvert à l'interrogation sur le monde, sur ce qui se passe, et qui ose voir un peu, avec un peu de recul, ce qui se passe, je crois qu'il sera d'accord avec ce que dit le pape François. Il nous montre ces soubassements au niveau de vraiment d'une volonté de bâtir cette maison commune ensemble. Dans le chapitre 6 de ce mois d'août, nous prenons ce thème, l'amitié sociale. Le pape, comme vous l'avez vu sur le petit feuillet qui vous a été remis, dialogue et amitié sociale. Le pape va y développer particulièrement trois mots clés. Il va parler du dialogue, effectivement, la notion de dialogue dans toutes les réalités humaines, au-delà, bien sûr, c'est déjà vrai dans une famille, mais ici, il le prend vraiment au niveau social, au niveau d'une fraternité humaine, des relations, on pourrait dire, communautaires, civiques, entre pays aussi. Il va montrer aussi combien on peut parler de consensus, la recherche d'un consensus, mais effectivement, qu'est-ce qu'on met sous ce mot ? La recherche de la vérité, un petit V, mais c'est quoi qui habite ce cœur profond de l'homme? Et cette invitation à voir qu'il nous faut développer une culture ainsi du dialogue, qui sera aussi de la bienveillance, pour que dans la démarche d'honnêteté intellectuelle et fraternelle, les hommes et les femmes de notre temps puissent contribuer à l'avènement d'un monde plus humain. Très concrètement, je vais donc passer en vue des chapitres de l'encyclique en suivant le feuillet que vous avez reçu. Ce sont des extraits, ce qui est souligné ou en gras, c'est moi qui l'ai mis pour vous faciliter le travail. Et nous allons un peu passer en vue ce matin, il y a le deuxième volet cet après-midi. Ce matin, donc au numéro 198, il nous rappelle que le dialogue persévérant et courageux, bon, c'est vrai, ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. L'importance du dialogue, ce n'est pas un monologue, dialogue pour se comprendre, s'écouter, se connaître. Essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Il soulignera aussi, je fais un petit résumé parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'avais oublié d'enregistrer la première conférence. La deuxième, je l'ai faite, et donc ici, je fais un petit résumé de quelques points forts de cette première conférence. Il va aussi nous souligner combien il y a l'importance de faire la différence entre l'indifférence égoïste et la protestation violente, entre les deux, c'est justement peut-être la place au dialogue. Au numéro 202, il va peut-être aussi souligner cet aspect combien important que le manque de dialogue pourrait vouloir dire que personne n'a vraiment le souci de promouvoir le bien commun. Le bien commun. Alors à ce moment-là, le dialogue, ça risque d'être de simples négociations. Et il a cette belle phrase, les héros de l'avenir, au numéro 202, seront ceux qui sauront rompre cette logique malsaine et décideront de défendre avec respect un langage chargé de vérité au-delà des avantages personnels. Le dialogue authentique, dit-il au 203, suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne quelques convictions ou intérêts légitimes. Quelques convictions ou intérêts légitimes. Sous-entendu, devant un différend, si on se met autour de la table pour dialoguer, c'est parce que on veut croire que l'autre a quelque chose peut-être d'important à me dire. Et je pars de l'idée qu'il y a quelque chose qui peut être juste et sain. La discussion publique, dit-il, s'il accorde véritablement de l'espace à chacun et ne manipule ni ne cache l'information, est un tremplin permanent qui permet de mieux atteindre la vérité ou du moins de mieux l'exprimer. Avant que cette invitation à oser le dialogue. Sans être naïf, bien sûr, on sait très bien qu'il y en a qui risquent de faire semblant, on en parlera plus tard, mais il faut partir aussi du principe que il y a une volonté de prime abord honnête chez chacun de vouloir entendre des choses, mais moi aussi j'ai le droit et le devoir de dire des choses. Il a cette petite phrase toute belle au 203. Les différences sont créatrices. Elles créent des tensions et dans la résolution d'une tension se trouve le progrès de l'humanité. Oui, une différence peut créer une tension, c'est sûr. Il y a un décalage, c'est instable et en même temps, c'est un défi là de résoudre cette démarche. Je pense combien la communauté de San Egidio, c'est sans doute, est très fort impliquée dans des résolutions de conflits, des chemins de réconciliation, dans des groupes, qu'ils soient politiques ou autres, dans les pays, pour favoriser une paix. Et puis alors, il va aborder la question, le fondement des consensus. Il aura cette phrase aussi au 206, le relativisme n'est pas une solution. Sous le couvert d'une prétendue tolérance, il finit par permettre que les valeurs morales soient interprétées par les puissants selon les convenances du moment. Frères et sœurs, je crois qu'on touche un point extrêmement sensible. On est à une époque où c'est bon ton d'être ouvert à tout, faut être tolérant, d'être ouvert à tout. Alors, s'il est bon d'être capable d'être ouvert à beaucoup de choses, il ne dit nulle part qu'il faut nécessairement être d'accord. Dans une famille, même si on peut s'attendre à des choses parfois bouleversantes, tout n'est pas automatiquement considéré ou à considérer comme valable. Autre chose est. Je veux peindre une pièce, on peut discuter de la couleur, il y a des points de vue différents, on fait un consensus. Mais il y a des enjeux qui ne peuvent pas se contenter d'un simple consensus, car qu'est-ce qui sous-tend? Qu'est-ce qui sous-tend la valeur qui peut être là mise en avant? Il dit, en définitive, s'il n'existe pas de vérité objective, c'était la conception parce qu'on parle de tolérance, s'il n'existe pas de vérité objective, ni de principe solide, hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de nécessités immédiates, alors nous ne pouvons pas penser que le projet politique et la force de la loi seront suffisantes. Lorsque la culture se corrompt, et qu'on ne reconnaît plus aucune vérité objective, ni de principe universellement valable, les lois sont comprises uniquement comme des impositions arbitraires et comme des obstacles à contourner. En d'autres termes, l'enjeu est bien, dans le cas du dialogue et du consensus, est-il possible de prêter attention à la vérité, de rechercher la vérité qui correspond à notre réalité la plus profonde. Ici, frères et sœurs, le pape ne fait pas encore référence à la foi. Tout être humain, croyant ou non, à sa conscience, il peut s'interroger, et il peut même pas seul aussi, mais qu'est-ce que c'est? Qui est-ce finalement l'être humain? Quelle est cette réalité la plus profonde qui habite le cœur humain? N'est-ce pas cela, une recherche de la vérité? Pour qu'une société, dit-il, ait un avenir, il faut cultiver le sens du respect en ce qui concerne la vérité de la dignité humaine à laquelle nous nous soumettons. Sous-entendu, il y a de ces valeurs sur lesquelles on ne marche pas, c'est moi qui ajoute, mais où vraiment l'être humain reconnaît qu'il y a là un fondement, quelle que soit la culture des continents. Est-ce que l'être humain aujourd'hui est prêt à faire l'effort qu'il faut pour oser rechercher cela, l'exprimer, et qu'alors toute la question des lois, de l'organisation, des structures doivent être compatibles? Il y a là, je crois, une responsabilité énorme. C'est une vérité incontournable que nous reconnaissons par la raison et que nous acceptons par la conscience. Il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, où une société est tellement en recherche de pouvoir, est tellement devenue individualiste, dans un libéralisme à outrance, on pense un peu ce qu'on veut, tant qu'on ne dérange pas trop les autres, une espèce de tolérance à bon marché, mais on ne se pose pas la question, est-ce que ces choix sont à considérer comme dignes de l'homme, dignes d'une société qui se voudrait respectueuse de tous? Voilà. Je vais m'arrêter là, dans ce petit résumé, en vous invitant peut-être à vous demander dans quelle mesure nous pourrions dire que chacun dans sa vie, est-ce que j'ai soif de dialogue en vérité pour donner place à l'autre et moi, que l'autre accueille ma place aussi. Dans ce dialogue, on avance ensemble en reconnaissant quelque chose de légitime chez l'autre, et inversement, pour construire alors un vivre ensemble plus approprié qui peut durer. Demandons-nous, dans ce qui dépend de nous, comment est-ce que nous avançons peut-être dans le sens de ce dialogue? Comment est-ce que nous comprenons le consensus? Est-ce que nous avons aussi la conscience qu'il y a des choses effectivement ajustées ensemble, mais en même temps, en respectant certaines réalités très fondamentales, ce dont il parlait, de cette réalité la plus profonde en nous et cette dignité humaine, entre autres, incontournable, quelle que soit notre nationalité, notre culture, notre continent, notre âge, notre QI, tout ce qu'on veut. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous laisser interpeller ensemble et en Église pour que chaque baptisé puisse être acteur de pont avec tout un de bonne volonté. Donne-nous de nous préparer à célébrer l'Eucharistie et que cet après-midi nous puissions poursuivre sur cette question, mais la vérité finalement, mais avec un petit V déjà. Ça voudrait dire quoi? Amen.